Mais que c'est ça?
Hein? Mais qu'est-ce? Je comprends rien.
Oh! Ça sent donc bien drôle. Dossier bizarre.
Bienvenue à l'émission Dossier bizarre. Ici Tristan Brunet-Dupont et Jason Lévesque pour parler de dossiers bizarres.
Ben oui! On parle de dossiers bizarres, mais là, on parlera pas. On délaisse un peu le paranormal, le mystérieux, les créatures étranges, ce genre de choses-là, pour aller notre tout premier dossier. À la base, c'était un peu vers ça, je voulais m'en aller. Puis finalement, on est rendu au 11e épisode, c'est la première fois qu'on le fait. On va parler d'un dossier criminel connu à travers la planète depuis tellement longtemps, mais qui n'est pas résolu et qui le sera probablement jamais. Jamais, jamais, jamais.
Ah ouais?
Jamais.
C'est... Quand on parle d'un autre dossier, là, on n'est pas dans le truc épeurant. J'imagine qu'on parle de meurtre et mystère.
Eh oui, de meurtre. On va parler de... C'est un incontournable quand on fait ce genre de d'émission, de peu importe. On va parler de Jack l'Éventreur.
Oh, attention au cœur sensible.
Oui, mais je n'ai pas la prétention d'amener quoi que ce soit de nouveau. Là. Au contraire, il n'y en a pas de nouveau.
OK.
C'est depuis le temps où ça s'est déroulé, ces événements-là, on peut pas avoir la prétention d'amener de quoi de nouveau. Mais on va y revenir à ça parce qu'il y en a quand même qui ont cette prétention-là et qui essaient régulièrement de résoudre le dossier de Jack l'Éventreur.
Alors, moi, je suis bien curieux de savoir tout ça. J'en avais entendu parler à un moment donné là, de cette histoire-là rapidement là, sur le web. J'avais lu un peu et je trouvais ça... mystérieux parce qu'il y a une thématique de médias aussi derrière ça.
Ben, c'est ça. Fait, ben, on va essayer d'aborder ça d'une manière qui est un peu différente. Parce que là, des documentaires, des livres, des podcasts, des émissions de télé, des émissions de radio, il y en a là, des centaines et des centaines et des centaines. Tout le monde en a parlé ou à peu près. On est les derniers d'ailleurs sur la Terre. Ouais, hein, savais-tu, il restait rien que nous autres. Là.
Exact.
Fait qu'on va essayer de prendre un peu de manière, peut-être un chemin un petit peu différent. On n'aura pas le choix de parler des victimes, on n'aura pas le choix de parler du contexte de l'époque, mais on va essayer d'aller aussi sur qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là qui était différent de ce qui s'est passé après. Parce que direct là, tout de suite au départ, il y a beaucoup de gens qui croient à tort que Jack l'Éventreur est le premier tueur en série. C'est pas ça.
Okay.
Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais il y a quand même eu des choses qui sont arrivées pour la première fois en lien avec l'histoire de Jack l'Éventreur et c'est là-dessus qu'on va s'en aller. Parce que des tueurs en série, là, je peux en nommer deux très rapidement qui ont sévi un peu avant Jack l'Éventreur et on pourrait probablement en trouver d'autres là, beaucoup, beaucoup plus vieux que ça. Il y a eu du côté des États-Unis, le premier tueur en série reconnu du côté des États-Unis, c'est H.H. Holmes qui, entre 1886 et 1894 à peu près, aurait tué entre 20 et 100 personnes. D'ailleurs, il avait bâti un hôtel. Son hôtel, c'était une usine à meurtre. Les gens allaient louer une chambre. Il y avait certaines chambres qui étaient adaptées pour pouvoir tuer la personne. Et pour ajouter un petit peu de morbide, il vendait les squelettes aux écoles de médecine. Il récupérait le squelette de ses victimes et les vendait pour les gens qui étudiaient en médecine. H.H. Holmes, c'était avant l'époque de Jack l'Éventreur.
C'est en thématique aussi avec le mois, en ce moment, si vous écoutez le podcast dans longtemps, mais là, on est dans le temps de l'Halloween.
Ben oui! Alors, ça nous ramène à ça. Hein?
Exactement.
Du côté de la France, le premier tueur en série reconnu, c'est Martin Dumollard. Entre 1850 et 1861, on dit qu'il a fait 4 meurtres. Donc, techniquement, dans la définition de tueur en série, c'est on disait 3 meurtres et plus, maintenant on dit 2 meurtres et plus. Bref, ça a été le premier tueur en série de la France. Et en 1862, on l'a passé à guillotine. Chouk! Fini!
Mais j'imagine que dans l'histoire, encore plus avant, mettons, si on parle de 1700, 1600, 1400, à l'époque médiévale même.
Il y en a toujours eu.
Mais là,
d'ailleurs, le terme tueur en série, c'est très récent, c'est très moderne. On parle de fin des années 70, début des années 80, où ce terme-là a été créé, si on veut, pour désigner ces tueurs-là qui tuaient 3 personnes et plus. Et là, en 2019, on parle de 2 et plus. On change un peu là, la définition, la manière de les étudier. Mais bref, c'est relativement récent. Ça n'existait pas à cette époque-là.
Et Jack l'Éventreur, c'est l'un des plus connus, si ce n'est pas le plus connu.
Oui, parce qu'il y a un aura de mystère autour de lui. Il y a un aura de mystère. Et tu as parlé des médias. Et ça, on va aller beaucoup, beaucoup dans cette direction-là durant l'émission aujourd'hui. Regardez qu'est-ce qui s'est passé exactement. Pourquoi Jack l'Éventreur, en 2019, on en parle encore? Parce que des tueurs en série qui ont eu des carrières prolifiques, je peux dire ça comme ça, là, même si c'est mal, qui ont quand même été très prolifiques dans les meurtres, il y en a eu des bien pires que lui, là. Et il y en a eu des plus gros, il y en a eu des plus méchants et des plus malins et tout ça. Mais lui a quelque chose de particulier qui fait qu'on en parle encore aujourd'hui. On va regarder pourquoi.
Je serais bien curieux. On veut tout savoir, Jason. Ah oui. On va commencer par remonter dans le temps,
ben exactement. On recule. On recule en 1888. On va se remettre dans le contexte de l'époque. Ça se passe à Londres.
Okay.
À Londres, puis le milieu des années 1800, 1850 environ, il y a un afflux important d'immigrants. Beaucoup il y a des Irlandais, il y a des Polonais, il y a des Russes, beaucoup de gens de confession juive qui s'en viennent à Londres. Là, il faut enlever nos lunettes de 2019 et se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y a pas de filet social pour ces gens-là. On n'a pas de mécanisme en place pour être capable d'absorber autant de gens qui arrivent aussi rapidement. On peut les qualifier un peu là, de ce que nous, on qualifierait aujourd'hui là, de gens qui quittent leur pays là, pour des raisons d'urgence, raisons humanitaires, raisons de guerre, raisons de risque. Donc, c'est un peu des réfugiés qui arrivent massivement à Londres à partir de 1850 environ. Il n'y a pas de filet social, donc ces gens-là vivent de la pauvreté. Ils arrivent là avec rien, ne réussissent pas nécessairement à travailler ou avoir un travail suffisamment payant pour bien vivre. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est le même phénomène qui arrive aujourd'hui. Ça crée des ghettos. Les gens pauvres, les gens qui sont arrivés, les Juifs qui sont arrivés ensemble vont se réunir dans un quartier. Les gens qui sont arrivés de la Russie vont se réunir dans un quartier. Et souvent, ces quartiers-là vont être un à côté de l'autre ou dans le même quartier, mais des petits groupes dans le même quartier. Mais ils sont pauvres, donc ça crée un quartier très pauvre.
D'accord.
La vie est épouvantable dans ces quartiers-là. Et l'un de ces quartiers-là, c'est le quartier Whitechapel, à Londres, dans le East End, qui est un exemple parmi d'autres de vie misérable à Londres à cette époque-là.
C'était comme le Montréal-Nord de l'époque à Londres.
Exactement. Donc, des gens pauvres qui se rassemblent ensemble et qui essaient de survivre. Encore pire pour les femmes à cette époque-là. Hein, on ne parlait pas d'équité ou de quoi que ce soit à cette époque-là. Les femmes étaient vues comme une sous-classe de la société, n'avaient pas beaucoup d'opportunités dans la vie. Certaines réussissaient à travailler. Il y a eu des pionnières également là, qui ont réussi à faire des très, très grandes choses malgré le contexte social. Mais en général, une femme était en difficulté à cette époque-là. À Londres, son seul sursis ou sa seule manière de s'en sortir habituellement, c'était de se marier. Okay. Se marier avec un homme qui avait un bon emploi ou qui avait une bonne situation, réussissait comme ça à s'en sortir. Sinon, elle se retrouvait dans une situation où elle devait, entre autres, la prostitution qui était extrêmement répandue. Là, on parle là, juste dans ce quartier-là, il y avait 62 maisons closes, des bordels. Il y avait au-delà de 1200 femmes qui faisaient de la prostitution régulièrement. Là, on parle d'un quartier, là. On ne parle pas d'une ville ou d'un pays, on parle d'un quartier parce que c'était leur seule manière de survivre.
D'accord. Et là, ouais, c'était assez difficile pour les gens, justement, les nouveaux arrivants, les femmes à l'époque. On est dans une autre époque. Là. Ça fait plus de 100 ans.
Tout à fait. Il faut vraiment enlever nos conceptions sociales actuelles pour se remettre dans l'époque.
C'était pas facile.
Pas du tout. Alors, les femmes, admettons, une femme se retrouvait seule, avec ou sans enfant, n'avait plus de résidence, n'avait plus de lieu pour dormir. Elle pouvait louer un lit à la nuit qu'elle devait payer d'avance. Et comment elle faisait pour le payer? Elle allait faire quelques passes dans les ruelles, ramener le montant nécessaire pour être capable d'avoir un toit et une sécurité pour cette nuit-là. Alors, imaginez-vous vivre l'insécurité là, au quotidien comme ça. Est-ce que je vais être capable de payer mon lit? Est-ce que je vais le payer à temps? Parce que des fois, il n'y en avait plus. Malheureusement, on est plein. On passe au prochain. Et finalement, il y a certaines femmes qui se retrouvaient à passer la nuit dehors de manière très régulière. Et la prostitution, ben, c'était leur manière de tenter d'assurer leur sécurité comme ça.
Donc, pour la mise en place de l'historique de l'époque et tout ça, c'est long. On est dedans, là,
oui,
c'est clair.
Oui, ben c'est ça, hein, on le voit, là, puis même...
Déjà, ce côté-là, j'y avais pas pensé, je me rappelle pas c'était en quelle époque, Jacques Léventreur, je pensais que c'était plus des années 1950.
Non, c'est en 1888, en fait, que ça commence. Donc, fin du 19e siècle, c'est à cette époque-là. Alors là, la pollution est épouvantable, les gens sont malades, meurent jeunes, la qualité de l'air est jaune, là, dans certains quartiers de Londres, les cheminées qui envoient de la fumée épouvantable, il n'y a pas de réseau d'aqueduc, il n'y a pas de réseau, dans certains quartiers, là, c'est rien, là. Il y a pas, on ne peut pas éliminer les déchets humains, c'est dégueulasse, c'est carrément dégueulasse. On vit là-dedans, on vit pauvre là-dedans, on essaie de s'en sortir en vendant son corps pour être sûr à récupérer quelques sous pour être capable de payer un repas, payer un lit. Donc ça, c'est la mise en place du contexte dans lequel ces meurtres-là se sont produits. On parlait de 1888. En fait, il y a eu une période qu'on appelle la période des meurtres de Whitechapel. Il y a eu 11 meurtres en tout. 11 meurtres en tout qui se sont déroulés entre le 3 avril 1888 et le 13 février 1891.
Et c'est les 11 meurtres de Jack l'Éventreur?
Pas du tout.
Non, okay.
En fait, ces 11 meurtres-là, il y en a 5 qu'on dit avoir été perpétré par Jack l'Éventreur. Il y a certains experts qui disent que de ces 11-là, il y en a seulement 3 qu'on peut vraiment attribuer à Jack l'Éventreur.
OK.
Mais ça a été une période où il y a eu énormément de meurtres dans ce quartier-là, dans ce secteur-là, dans le East End, dans Whitechapel. Et oui, on dit qu'il y a les 5 meurtres canoniques parce que, historiquement, on dit qu'il y en a 5.
Okay.
Attribué à Jack l'Éventreur. Fait qu'on va partir avec cette base.
Oui,
on n'ira pas dans les débats très profonds. On n'a pas le temps de toute façon. Donc, 5 meurtres qui sont attribués à Jack l'Éventreur. 6 qu'on va revenir un petit peu plus tard sans donner les détails. Mais dire pourquoi ces 6-là dans la même période. Puis certains disent peut-être pas. On va y revenir parce que ça fait partie de ce qui est arrivé dans cette période-là, qui est un peu nouveau avec Jack l'Éventreur dans le traitement de cette affaire-là.
Okay,
je te vois confus, mais ça va être clair.
Non, mais ça, j'ai hâte de voir justement comment ça a commencé parce que les gens, je sais qu'à un moment donné, ils avaient peur de sortir des rues, c'était rendu ça.
Oh
seul,
oui,
là,
absolument.
Parce qu'ils avaient peur d'être de devenir la prochaine victime, tu sais, de Jack l'Éventreur.
Tout à fait, il y avait des milices civiles qui avaient été organisées aussi, des comités de surveillance, là, tout ce qu'on peut penser qui n'est pas très différent de ce qui arriverait aujourd'hui dans le même contexte, de toute façon. On aurait des groupes de citoyens, des groupes de parents qui s'organiseraient pour dire « On trouve que la police ne fait pas sa job, nous autres, on va la faire, puis vous allez voir, on va le trouver. » Alors, c'était un peu ça qui se passait à l'époque. La peur habitait ce quartier de Londres-là. Alors, ça a commencé, ça. On va y aller avec les 5 qui sont attribués à Jack l'Éventreur. Donc, la toute première victime qui est attribuée à Jack l'Éventreur est Marianne Nichols. Son corps, à elle, a été découvert le 31 août 1888. À 3h40 du matin sur Box Row. Gorge tranchée au couteau, partie basse de l'abdomen qui avait été tailladée. Donc, elle avait été mutilée là, après coup. Et bon, on disait que c'était une lame qui ne coupait pas très bien, des coupures irrégulières. C'était pas très beau à voir.
Ew.
C'est la première victime qu'on peut attribuer à Jack l'Éventreur. La deuxième est Annie Chapman. Elle, son corps a été découvert le samedi 8 septembre 1888 vers 6h du matin.
Une semaine plus tard.
À peu près une semaine plus tard, exactement. Et là, vendredi, samedi, ça va revenir ça dans l'enquête, ça va revenir dans les faits également. Donc, vers 6h du matin, le samedi 8 septembre, Annie Chapman qui est découverte morte, gorge tranchée encore une fois, abdomen complètement ouvert. Plus tard, on a établi que l'utérus avait été retiré. Donc, on avait retiré des viscères, on avait retiré des parties du corps. Et quelqu'un dit avoir vu la femme vers 5h30 en compagnie d'un homme qui aurait été un client parce que, bon, elle se prostituait. Et là, les différents témoignages varient. On dit « Il était bien habillé. » Non, il était mal habillé. Il était grand, il était petit, il était foncé, il était pâle, il avait les cheveux blonds, il avait les cheveux noirs. Fait que bref, finalement, on a tellement de témoignages contradictoires que ça donne rien. Le 30 septembre. Le 30 septembre, Tristan, c'est un dimanche.
Oh, là, vendredi, samedi, dimanche.
Donc le dimanche, deux corps ont été trouvés. Le premier corps qui a été découvert, c'est vers 1h dans une cour près de Burner Street. Gorge qui a été tranchée, on a sectionné la carotide, donc coupure très profonde, mais aucune lacération au niveau de l'abdomen. Et ça semble avoir été abandonné comme ça, cette scène-là. On se dit, il a été dérangé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une autre victime. Le soir même, la deuxième victime. Donc, la première victime, est ce soir-là, c'est Elizabeth Stride. Et quelques heures plus tard, le corps de Catherine Edhouse qui est trouvé également le même matin. Et cette fois-ci, elle, c'est dans Mitre Square, une partie de la cité de Londres. Donc, elle sort un petit peu du quartier. Mais ça reste quand même le même modus operandi. Donc, 3 quarts d'heure après, vers 1h45 du matin, le dimanche 30 septembre, le corps est découvert. Et là, cette fois-ci, la gorge est tranchée. L'abdomen est ouvert par une longue et profonde coupure. Rein gauche et une partie de l'utérus qui ont été retirés. Donc, il y a eu mutilation après coup. Alors, ce qu'on dit, les experts disent, il a été dérangé alors qu'il était avec Elizabeth Stride. Il a laissé ça là parce qu'il ne voulait pas se faire prendre, s'est sauvé, a trouvé une autre victime beaucoup plus loin pour tenter de pouvoir compléter sa pulsion de ce soir.
Je viens d'avoir un frisson de.
C'est assez. C'est graphique, mais en même temps, je ne rentre pas dans les détails plus que ça parce qu'il y en a des détails beaucoup plus graphiques, mais je me tiens à ça. Je veux vraiment juste faire un survol des victimes. Dernière victime, Mary Jane Kelly. Elle, ça a été un massacre total, mais total. Ça s'est fait à l'intérieur pour la première fois. Dans les 5 victimes, c'est la seule à l'intérieur. Et elle, c'est vendredi le 9 novembre à 10h45 du matin. On l'a retrouvée sur le lit de la pièce où elle vivait seule du côté de Miller's Court. La gorge avait été tranchée jusqu'à la colonne vertébrale, l'abdomen presque entièrement éviscéré. Le cœur avait été retiré. Alors, celle-là, ça a été celle qui a été le plus mutilée après le meurtre, après la mort. Donc, 5 meurtres, tous de nuit et tous soit le vendredi, le samedi ou le dimanche.
Extrêmement macabre aussi dans, dans la description du meurtre en question. Burke, maudit monstre.
Ah oui, c'était un monstre. Il était sauvage. Ben, était sauvage. Et là, bon, on a les 5 victimes canoniques, donc les 5 confirmées. Il y en a 11. Il y en a certaines que certains vont attribuer, d'autres, donc une 6e ou une 7e victime qui vont attribuer à Jack l'Éventreur. Mais premier point particulier de cette histoire-là, c'est la première fois qu'on dit qu'il y a eu un imitateur. Il y a certains meurtres qui ressemblent un peu, mais que les indices ou les faits démontrent que non, c'est probablement pas Jack l'Éventreur, mais peut-être quelqu'un qui s'est dit « m'a faire comme lui ». Alors, ce qu'on appelle un copycat en anglais, donc un imitateur qui a tenté de créer des meurtres ou de tuer de la même manière que Jack l'Éventreur, souvent pour essayer de brouiller les pistes, si on veut.
Okay, oui.
C'était quelque chose de nouveau à l'époque. Donc, dans les 11 meurtres, on attribue des meurtres à des imitateurs, en plus de Jack l'Éventreur, parce que ça se passe dans la même période de temps. Okay. Et ça, c'était nouveau comme phénomène, pas nouveau comme phénomène complètement, mais où on le mentionnait, où on le soulignait, de dire « quelqu'un imite ». Aha.
Un mois de septembre et octobre 1888.
1888, oui.
Qui était assez sombre à Londres.
Sanglant, la peur s'est installée. La peur a été attisée par les médias de l'époque également.
Faisons une courte pause.
Oui!
Et on revient tout de suite après pour la suite, les détails de cette histoire Jack l'Éventreuse. Une histoire basée sur des faits réels.
Absolument.
Une histoire macabre en ce mois d'octobre. Mais si vous l'écoutez en novembre, en décembre, peu importe, quand vous écoutez le podcast, c'est jusqu'en ce moment, on est en octobre.
Peut-être en 2048, Paul, on le sait pas!
Restez là, on revient tout de suite.
Les dossiers bizarres est une présentation de...
Ce soir à Denis le Lutin, je reçois une femme qui a déjà gardé le chien d'un homme qui était le troisième voisin de quelqu'un. Qui a été opéré par un médecin qui a déjà pris l'avion avec l'ancien chanteur d'un groupe de musique, qui a été à l'école avec le cousin d'une dame qui faisait du ménage dans une caisse populaire où a travaillé en 1961 le directeur d'un organisme communautaire qui aurait possiblement vendu un manteau à un homme réputé pour boire du café dans un commerce que fréquentait un présumé lanceur de javelot, médaillé d'or.
Ne manquez pas ce soir sur les ondes de C'est Noël, Denis le Lutin dès 20h. On ne sait même pas de quoi il parle, nous autres non plus.
Il a remporté un concours de mangeurs de hot-dog organisé par le frère du chien qui joue dans des films à la télévision.
Nous sommes de retour à l'émission Dossier Bizarre, 11e épisode. Aujourd'hui, on parle de Jack l'Éventreur. Jason Lévesque nous vulgarise ce dossier mystérieux. Et on le sait, hein, il y a des dictionnaires, des milliers de pages d'informations sur cette histoire. Ça a dû être toute une mission là, de vulgariser ça.
C'est d'essayer de la documentation que j'ai, parce que je m'intéresse à ce dossier-là depuis très longtemps. Et la documentation que j'ai pourrait remplir probablement une émission de 3 heures facilement, mais je ne veux pas être redondant dans ce qui s'est déjà dit, parce qu'on a juste à aller sur Internet et faire une recherche sur Jack l'Éventreur. Vous allez avoir des milliers de documents, de vidéos, de tout ce que vous voudrez qui va en parler. Alors, on va essayer de condenser ce qu'on a déjà de connu, puis peut-être avoir un regard un peu critique sur le traitement médiatique, autant aujourd'hui qu'à cette époque-là. Parce qu'il y a certaines particularités qui étaient une première à cette époque-là.
Donc là, on revient peut-être une mini-description pour se remettre dedans. 1888, septembre-octobre, les deux mois où il y a eu les meurtres justement de Jack l'Éventreur, on parle de 5 meurtres qui sont reconnus comme étant les meurtres de Jack l'Éventreur, mais il y en aurait 11.
Il y en a eu 11 en tout durant une période entre 88 et 91. On parle de 1800, là, bien sûr, là, à la fin du 19e siècle. Donc, il y a eu 11 meurtres au total. On a dit avant la pause que certains meurtres ont été attribués finalement à des imitateurs, des gens qui, pour une raison X, décidaient d'imiter les crimes de Jack l'Éventreur, peut-être pour brouiller les pistes, peut-être pour... simplement parce qu'on était un petit peu craqué dans le cerveau, ça arrive des fois.
Tomber dans sa folie, c'est ça, exactement. Dans sa folie meurtrière.
Et là, ça nous amène à l'enquête policière. Là encore, là, Tristan, on va revenir en arrière. Là, je vais vous demander d'enlever vos lunettes de 2019 et vous remettre à l'époque de 1888. En 1888, on utilisait des techniques qu'on avait à portée de la main. La médecine légiste n'existait pratiquement pas à cette époque-là. En fait, le médecin légiste, souvent... c'était un médecin bien ordinaire qui s'adonnait à être disponible ce soir-là pour essayer de faire quelques observations sur le corps, les photos. quand on en avait, elle était extrêmement floue et de mauvaise qualité. Les empreintes digitales, c'était à peine un concept qu'on commençait à tenter de développer. En fait, au lieu d'utiliser les empreintes digitales, une petite parenthèse comme ça, on utilisait la je savais que j'allais bafouiller. La physiognomonie.
Et là là.
En fait, c'était l'étude du corps, de l'apparence, de la personne, de son visage, de ses traits faciaux. Et là, on disait, il a les traits d'un criminel. Et on se fiait là-dessus dans certains cas. Et c'était très fort dans le milieu du du 19e siècle, dans la deuxième moitié du 19e siècle. On utilisait encore cette technique-là qui datait de l'Antiquité. Ça donne une idée de où on est. Là.
Oui, oui. Pis,
du côté juste... des techniques d'enquête, là, on est loin en arrière.
Ça. Juste une petite parenthèse là, courte là, sur 1888. Je sais que c'était à cette époque-là que toutes les grosses découvertes scientifiques ont été faites au début du 20e siècle. 1905, 1910, voilà. 1915, juste avant la Première Guerre mondiale. Et la Première Guerre mondiale qui a alimenté justement la découverte scientifique. Mais en 1888, c'était juste avant.
On est juste sur le bord. Oui, c'est ça. Il y a du monde intelligent qui dit arrêtez de regarder la face de la personne. Peut-être qu'il est lettre, mais il n'est pas criminel pour autant. Mais encore, on n'avait pas développé des outils de remplacement suffisamment fiables, comme les empreintes digitales. Ça s'en venait, là. Mm-hmm. On était sur le point de...
On était vraiment sur le point de changer un peu d'époque au niveau des connaissances scientifiques, mais on n'était pas encore là. Juste pour terminer ma parenthèse sur, pas l'imbécibilité des gens en 1888, mais je sais qu'à un moment donné, il y a eu un bateau de pétrole qui a coulé en 1804, en fin de ce siècle-là, 1800 cuc. Et puis... ce qu'on avait fait, les humains, c'est de jeter dans l'océan toutes sortes de shampoings chimiques pour nettoyer l'océan de pétrole. Alors, on avait rajouté des produits nettoyants hyper toxiques dans l'eau pour nettoyer l'océan de pétrole. C'était...
J'imagine la gang de gars avec des rames. Ah ouais, brasse qu'elle fasse de la mousse, là!
C'est une autre époque.
C'est ça. Fait qu'on se ramène à cette époque-là, du côté des enquêtes criminelles, de la médecine légiste et de tout ce qui est études d'indices, ça existait pratiquement pas. Alors là, notre idée qu'on a aujourd'hui, on regarde la télévision là, en 2019, et là, on voit un enquêteur dans une série qui dit « Ah, de l'ADN, donne-moi ça. » Il goûte un petit peu. Je connais ce criminel. C'est quasiment ça. Là. Puis là, il enlève ses lunettes. Puis là, on entend de la musique en arrière. Ah! C'est pas comme ça. Alors, en fait, c'est même pas comme ça aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'est le concept d'ADN, d'être capable d'étudier les groupes sanguins, ce genre de choses-là, c'était des concepts qui n'existaient pas. Alors, on devait faire quoi? Ben, enquêter, regarder ce qu'on avait comme matériel observable à l'œil nu, des fibres non plus. On pouvait pas les étudier. Les empreintes digitales, on faisait des interrogatoires, on jasait avec du monde, on a interrogé des milliers de gens dans l'enquête de Jack l'Éventreur. On a emprisonné ou même pratiquement accusé 200 personnes environ à cette époque-là. Ça a l'air d'un suspect, pas pire, on va l'accuser. Et là, finalement, la personne était innocentée après avoir été... après que l'enquête ait progressé un petit peu. Mais on y allait vraiment, là, c'était un job de bras. Il n'y avait pas rien, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de technologie qui venait les aider à l'arrière. Alors, c'était très difficile à cette époque-là de pouvoir faire ça. Et ce qui est venu compliquer la tâche des enquêteurs, et là, on ouvre la porte grande, et on dit « Hey, les médias, wouhou, venez-vous-en! Voilà. » Parce que là, on va en parler de ce côté-là, qui pour moi est un côté fascinant. Les médias, ça m'a toujours intéressé, ça m'a toujours fasciné de voir comment ils peuvent venir jouer sur certains événements historiques, sur certains éléments. À cette époque-là, c'était la première fois que les médias suivaient vraiment une affaire criminelle de cette ampleur-là, mais comme participants. Alors là, on avait des journalistes, on avait des journaux qui écrivaient des articles quotidiens sur cette histoire-là. Quand on a confirmé que, c'était le même tueur qui avait fait plusieurs meurtres, là, tous les journaux se sont mis à parler de ça. Et ont pris une part active dans l'enquête de cette manière-là.
Ça, c'est clair qu'ils ont sûrement peut-être vu aussi que les gens... Tu sais, ça a dû être un peu phénoménal comme l'intérêt de la population pour ce dossier de meurtre-là, étant donné qu'on avait un suivi dans les journaux qui disait « Deuxième meurtre de Jack l'Éventreur! Troisième meurtre
de Jack l'Éventreur! » C'était l'équivalent de la télévision en continu qu'on a. Hein? Mm-hmm. Admettons qu'il arrive un événement catastrophique aux États-Unis, on se rappelle du 11 septembre 2001, on l'a eu en continu. On avait un update à toutes les deux minutes de qu'est-ce qui se passait, puis y a-tu quelqu'un qui est tombé de l'immeuble, puis là, l'immeuble est-tu écroulé, puis qu'est-ce qui se passe, est-ce que les pompiers sont arrivés? On avait ça là, en temps réel. C'était l'équivalent de ça en 1888. Mm-hmm. Alors, à tous les jours, et même des fois deux fois par jour, parce qu'il y avait souvent des éditions spéciales qui sortaient, Et là, ce qu'on voit dans les films, là, extra, extra!
Oui, c'est ça.
Le petit gars avec le journal dans les mains. C'était vraiment comme ça à cette époque-là. Alors les gens se ruaient sur les gens qui avaient des journaux et achetaient tous les journaux possibles et imaginables pour avoir tous les détails sordides des meurtres. Et là, par ça, la population s'est mise à participer à l'enquête également. C'est un phénomène complètement nouveau. Et là, les policiers ne savaient pas trop comment gérer ça.
On se
retrouvait avec des gens qui envoyaient des lettres pour donner des conseils. Avez-vous pensé à ça? Avez-vous essayé ça? Hey, connaissez-vous telle personne? Moi, je pense que... Ça s'est mis à s'ingérer dans l'enquête des policiers comme ça, à juger le travail des policiers également. Gérard d'Estrade, ça existait à cette époque-là. Moi, je ferais le meilleur job que vous autres. Puis là, comment ça? Puis... Alors, les gens se sont mis à interagir par les journaux, par des lettres directement aux policiers. Se sont insérés dans l'enquête.
La ville de Londres au complet s'est ingérée dans le dossier.
Absolument. Et c'était la première fois, comme je disais, que les médias avaient une entrée directe sur une affaire qui était en cours et qui passionnait les gens, qui faisait peur. Mais les gens aimaient ça, avoir peur. On aime ça, avoir peur. On écoute là, plein de documentaires, ces tueurs en série. Il y en a partout. Hey, qui sont fous, puis que ça nous donne un petit frisson, on aime ça. C'était ça aussi à l'époque. Mais là, on avait une vue en direct de ce qui se passait et les gens ont commencé à s'ingérer. Il y a des craqués, on parle d'imitateurs, ben c'est arrivé de ça. Les journaux en parlaient, donnaient des détails sordides et des détails qui n'auraient pas dû sortir nécessairement dans les médias si c'était aujourd'hui que ça se passait. Mais là, c'était bar open, c'était un buffet à volonté. On donne tous les détails, ben ouais, puis là, tout le monde écrivait dans les journaux ce qu'ils voulaient. Avec tous les détails qu'il voulait, ce qui a donné des idées probablement à d'autres gens un peu instables de reproduire les meurtres de Jack l'Éventreur. Mais c'était la première fois, on ne savait pas comment agir face à cette situation-là.
C'est spécial, pareil. C'est clairement, c'est pour ça que ça a marqué aussi l'histoire de l'humanité, non seulement par le côté macabre du meurtre, des meurtres, mais aussi du côté de ce que ça a donné comme impact dans la société à Londres, dans les médias, dans la population. Ce dossier-là est on peut l'analyser sous différentes formes, côté sociétal, le côté psychologique, le côté des médias, le côté du meurtre. Ça reste une histoire horrible, mais qui a eu un impact dans la réalité à l'époque, justement, du quotidien des gens, que, comme tu le dis, là, se ruer sur les journaux quotidiennement.
Les journaux, ça se vendait en quelques minutes. Là. C'était fini. Dès qu'il y avait quelqu'un, « Oh, édition spéciale, Jack l'Éventreur! » Oups, fini. Les gens se lançaient littéralement, se battaient pour avoir le journal, pour avoir le dernier détail de Jack l'Éventreur.
Est-ce qu'on l'a pincé,
Non, jamais. Jamais. On va aller voir la liste des suspects tout à l'heure. Il y en a quelques-uns qui s'est farfelu, d'ailleurs, que ça peut être assez intéressant, parce que veut pas, ça amène aussi son lot de gens qui pensent savoir. Nous cherchons, j'ai des preuves. Alors, il y en a eu et il y en a encore aujourd'hui, d'ailleurs. Hein, fait que, il y en a des suspects. La liste là, est pratiquement infinie de suspects potentiels. Mais si on retourne aux médias, il y a un phénomène également qui s'est développé. Et ça, c'était pas nouveau. Des journaux, des journalistes qui, pour tenter de vendre la copie, inventaient des choses. D'ailleurs, ça se fait encore aujourd'hui. À moindre échelle, puis bon, souvent on va pointer du doigt immédiatement le journaliste qui sort une mauvaise information.
Selon Donald Trump, tous les médias, c'est des menteurs.
Absolument, toute la gang, sauf ceux qui disent qu'il est fin.
C'est ça.
Mais à cette époque-là, il y a des journalistes qui se sont mis à voir que, hey, le journal vient de sortir dans la rue, il n'y en a plus. Ça a pris 10 minutes. Oh, faut que je sorte de quoi sur Jack l'Éventreur, moi c'est clair, là. Faut que je sorte de quoi. Alors là, on s'est mis à aller un petit peu plus loin que les faits, commencer à « Oh, ben peut-être que... » Et là, ça a créé le phénomène des lettres de Jack l'Éventreur. Il y a des lettres qui ont été envoyées aux médias. On parle de... Les chiffres varient. Hein. Il y en a qui parlent de 200, il y en a qui ça va jusqu'à 400, il y en a qui disent 600. Des lettres qui étaient envoyées directement dans les journaux, signées Jack l'Éventreur. Et de toutes ces lettres-là, trouvez le chiffre que vous voudrez, là, 200, 400, 600, 2000, il y en a trois. Seulement qu'on pense qu'il serait peut-être signé de la main de Jack l'Éventreur pour vrai. Et pourtant, tous les journaux avaient leurs lettres. Ça rentrait en quantité industrielle, les lettres de Jack l'Éventreur. Il n'y en a pas eu beaucoup. En fait, il y en a deux qu'on est presque certain. Une troisième qu'on pense que c'est plus un canular.
Mais qu'est-ce qu'on disait dans cette lettre-là?
Ah, mais c'était toutes sortes de choses. La première lettre qui a été envoyée et qu'on dit qu'elle serait la lettre originale de Jack l'Éventreur, qui a donné son nom d'ailleurs, parce qu'il a signé Jack l'Éventreur, c'est la lettre qu'on appelle la lettre Dear Boss. Il l'envoyait au chef de la police.
Okay.
Et il se moquait, et il se vantait, et il prévoyait ses prochains crimes.
Ah ouais.
Il disait même dans une... Est-ce que c'est la première ou la deuxième, je me souviens plus, mais il prévoyait de tuer deux victimes le même soir, chose qui est arrivée pas longtemps après.
Ah ouais.
Donc, c'est une sorte on de... dit que ça se peut bien que ce soit lui.
provocation en plus.
Là. Absolument. Alors, il y a eu trois lettres. Il y a eu la lettre d'Earbus, qui est la première et qui est la lettre la plus célèbre de Jack l'Éventreur, où il parlait d'envoyer ou de couper une oreille à une des victimes. Et là, il a coupé l'oreille. Bon, et donc, il y a certains éléments de la lettre qui se sont reproduits dans la victime suivante qu'on dit. Ça ressemble à lui.
Okay, ouais.
On pense que ça pourrait être lui. Et la deuxième lettre, ben, c'est que l'écriture est la même.
Ah ouais. Okay.
Donc là, on se dit, ah ben, ça doit être la même. C'est la même écriture, le même genre, le même style d'écriture.
Okay.
Donc la deuxième lettre qui a été... en fait, c'est une carte postale là, qu'on appelait Saucy Jackie. C'est le titre qu'on a trouvé à la carte postale, qui a aussi été envoyée, qu'on pense que ce serait lui. Et une troisième qui a été envoyée au chef de la milice qui faisait de la surveillance dans les rues avec un rein, une partie de rein qui disait « Je vais manger l'autre moitié ».
Oh my God, okay.
Mais l'écriture est complètement différente dans celle-là. Okay. On n'est pas sûr, on pense que c'est peut-être un canular. Bref, toutes les autres lettres qui ont été envoyées, la plupart, on a prouvé que c'était des journalistes qui s'écrivaient à eux-mêmes en signant Jack l'Éventreur pour dire « J'ai reçu une lettre de Jack l'Éventreur, stop the press, arrêtez! »
Peut-être des citoyens aussi qui disaient « Ah, oh, moi, je vais écrire de quoi, je vais paraître dans le journal demain, on va essayer de se moquer de la presse puis des policiers. »
Les policiers surtout, on voulait les faire passer pour des imbéciles parce qu'on jugeait qu'ils n'avaient pas le talent nécessaire pour résoudre l'affaire. Alors ça aussi, ça a été quelque chose de tout à fait nouveau à cette époque-là, où là, on avait une interaction entre le tueur, les médias. Le tueur utilisait les médias pour se moquer des policiers, pour faire peur à la population.
Ah, ouais.
Chose qu'on a vu reproduire dans l'histoire par après. Mais là, c'était la première fois que le tueur avait comme une vitrine directe en passant par les médias comme ça. Et lui, dans sa barbe en arrière, une fois qu'il a écrit sa première lettre, puis qu'il n'avait peut-être pas l'intention d'en écrire d'autres, il a vu les journaux commencer à sortir des lettres à répétition comme ça. Il devait-tu être crampé, juste un peu, dire « Hey! » J'ai juste envoyé une lettre, moi, puis depuis ce temps-là, il y en a 100 qui sont sortis. J'ai rien d'autre à faire que juste être assis chez nous et attendre que le monde fasse la job à ma place. C'est assez impressionnant de voir. Et là, ça a été une traînée de poudre là, après. Là. Puis là, les médias sont partis dans toutes les directions. Tellement de fausses informations, des fausses accusations ouvertement qui ont été déposées. C'était assez particulier. Autre première, rapidement, qui s'est faite à cette époque-là, on parle du profilage criminel. Profilage criminel. D'ailleurs, il y a une émission qui joue, une télésérie qui joue sur Netflix actuellement, là, qui s'appelle Mindhunter, qui démontre un peu comment on a établi ça, cette science-là avec le FBI, d'étudier les tueurs en série pour être capable de créer un profil selon leurs habitudes, selon le type de meurtre qu'ils font et tout ça. Et c'est très, très, très moderne comme science aussi. Le John Douglas, là, qui fait partie des enquêteurs qui ont participé à ça, qui était un psychologue, du moins dans du côté là, des sciences psychologiques du FBI. Mais ça s'est fait à l'époque aussi. On a demandé à l'un des médecins qui a fait une autopsie de regarder et de nous donner une idée à peu près de qu'est-ce que lui en pensait.
Okay.
Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'on enlevait des morceaux de la personne à l'intérieur, donc on ouvrait l'abdomen et on enlevait l'utérus, on enlevait les reins, le cœur, peu importe, on a dit « c'est quelqu'un qui a des connaissances en anatomie, des gens qui ont des connaissances en médecine. » Alors on a demandé à un médecin « étudie la dépouille et dis-nous si cette personne-là a des connaissances ou non. » En anatomie, en médecine, ou peu importe. C'est la raison pour laquelle on s'est mis à suspecter les médecins, les vétérinaires, les bouchers, les employés d'abattoir. Et là, tout le monde devenait un suspect parce qu'on disait « Ah, c'est sûr que c'est quelqu'un qui est habile avec un scalpel, qui est capable d'enlever des morceaux. » Donc, c'est devenu là, un peu une chasse à la sorcière, si on veut, à cette époque-là. Mais le premier profil criminel, profil psychologique de criminel, s'est fait sensiblement à cette époque-là, alors qu'on ne savait même pas que ça existait. Et années 70, 1970, 1980, on a développé cette science-là avec le FBI alors qu'on l'avait fait en 1888 avec Jack l'Éventreur. De manière très, très de base, mais quand même, on disait que c'était un maniaque sexuel, que même s'il n'y avait pas pénétration, il y avait quand même une nature sexuelle au geste, etc.
L'étude des corrélations, donc des liens entre les différents meurtres pour faire des constats, pour créer des hypothèses de qui pourrait être le
suspect. Exactement.
C'est les premiers...
Nous recherchons un homme entre 25 et 35 ans, de race blanche, quelqu'un qui a un emploi manuel, conduit une vieille voiture usagée. Et là, on sort plein de détails comme ça. Et souvent, ça s'avère vrai parce qu'on a étudié par statistique, par moyenne, de quoi aurait l'air un tueur qui agirait de la sorte.
Donc, c'est une enquête aussi qui a permis d'apprendre des trucs de comment faire une bonne enquête efficace. Même si ça n'a pas vraiment, à l'époque, en 1888, fonctionné.
Non, ça n'a pas donné grand-chose.
Ils ont quand même découvert, enfin, justement, des nouvelles méthodes pour enquêter, j'imagine.
Rapidement, pour finir sur le profilage criminel, souvent, les gens pensent que ça va nommer une personne. Ben là, avec ce profil-là, nous savons que c'est Tristan Brunet-Dupont, le criminel. C'est plus l'opposé. C'est que souvent, ces profils-là vont servir à éliminer des suspects.
Ah oui, ok, je comprends.
Et dire, on va se concentrer sur ceux qui vont cadrer un peu plus sur le profil et on va éliminer ceux qui ne cadrent pas du tout dans le profil. Ça permet de restreindre l'enquête et non pas comme dans les films et les téléséries, de trouver la personne.
Ok, c'est que... Alors, un peu comme dans réussit. Le jeu, tu sais, le jeu des faces, là, qu'on avait des...
Fallait oui, exactement.
Pas, y avait-tu une barbe? Non, ok, celui qui n'a pas de barbe, ok, on enlève tout ça avec les barbes.
Et à force de réduire comme ça, on finit par terminer avec une seule personne. Ah, c'est un ça. Peu le même principe. Alors, dans les films, on nous montre que le profil fait en 15 minutes permet de nommer la personne là, hors de tout doute, alors que c'est plutôt le contraire. On élimine des suspects pour réduire le bassin et simplifier l'enquête.
Hmm.
Mais là, on est complètemment rendu dans les techniques psychologiques.
Le temps file aussi.
Hey, Tristan, on a parlé de suspects parce que là, on a tracé un bilan rapide. On a montré l'impact avec les médias qui ont nui à cette enquête-là, qu'on le veuille ou non, ont empiété et ont embourbé l'enquête.
Pour leur, l'intérêt, leur propre intérêt des médias,
ouais,
côté sensationnel,
ouais,
pour attirer des...
Ça se fait encore aujourd'hui, les titres à couleur qui nous font cliquer, là, puis finalement, on se rend compte que c'est pas du tout ce que ça dit, mais bon... Il y en a encore plein aujourd'hui, mais c'était pas c'est pas un phénomène qui est nouveau, c'est juste l'outil qui est différent. Maintenant, ça passe par Facebook. À cette époque-là, c'était un petit gars sur le coin de la rue qui disait « nouveauté! Jack l'Éventreur a tué encore! » Et là, les gens allaient acheter le journal, mais maintenant, on clique. C'est la même chose. Pareil, le principe reste le même. Des suspects, Tristan, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines. Et même que à tous les 2-3 ans, il y a un auteur ou un chercheur ou... qui va sortir et dire « J'ai la solution.
Ah ouais.
J'ai trouvé qui est Jack l'Éventreur. » Et là, ils vont nous exposer leur théorie hors de tout doute, tellement qu'on parle souvent des pseudo-sciences. Hein?
Oui.
Tu sais, des sciences qui ne sont pas des vraies sciences. On a nommé ces gens-là, qui font des études très approfondies du dossier de Jack l'Éventreur, des « ripperologues » ou des « éventrologues ». Ologue étant spécialiste dans quelque chose.
Uh-huh.
Donc, des spécialistes de l'éventreur ou « ripperologue » en anglais, le « Jack the Ripper ». Alors, on les nomme comme ça, ces gens-là. Oh. Il y en a qui font ça à temps plein. Hein.
Okay.
Mais vraiment à temps plein. En 2019, là, il y a des gens présentement... là. Ils sont en train d'étudier des trucs et des preuves, puis aller voir des indices bizarres.
Ça fait penser aux autres épisodes qu'on a fait, comme par exemple le Bigfoot, dans la cryptozoologie, comme tu nous disais,
exact.
Des gens qui passent leur carrière, parce que si jamais c'est eux qui trouvent le Bigfoot, ben là, ils vont faire l'histoire. C'est pareil pour Jack l'Éventreur.
C'est tellement magique, ce dossier-là, que si je suis celui qui trouve la preuve, qui dit que c'est cette personne-là, Jack l'Éventreur, je vais passer à l'histoire, là, c'est sûr et certain. Donc, il y a une espèce d'appât là, alléchant au bout de ça là, qui est « Ah! » Puis je vais passer ma vie. Puis chaque jour, c'est comme « C'est peut-être aujourd'hui. » Puis finalement, je vais passer ma vie à faire ça pour au bout de la ligne arriver avec des listes de suspects. Écoute, là, j'ai à peu près 22 pages devant moi. Là, c'est que des noms de suspects.
Résoudre l'enquête non résolue.
Ah, c'est ça. C'est tellement alléchant pour ces gens-là. Alors que la liste des suspects... puis la plupart sont tout simplement prouvés que ça ne peut pas être eux autres. Là.
Mm-hmm.
Mais on continue quand même à enquêter sur ces personnes-là. D'un coup, qu'on aurait échappé quelque chose. Et là, d'autres noms se rajoutent d'année en année.
Mais
ça finit jamais.
C'est
là.
Fatigant de savoir qu'on ne l'a pas trouvé. Ça m'écœure, moi.
Oui,
avec.
C'est plate. C'est vraiment
c'est
comme, pas le fun.
C'est qui? C'était qui, ce maudit malade-là?
On peut quasiment dire, hors de tout doute, qu'on le saura jamais. Parce qu'il va toujours persister un doute quelque part. Alors, mais là, la liste des suspects, écoute, il y en a eu au moment de l'enquête, au moment où les meurtres se sont produits. On parle de Montagu John Dritt, par exemple, qui était un avocat, qui était aussi directeur adjoint dans une école homosexuelle. Il a été mis à pied. On se ramène encore en 1888. Alors, mis à pied parce qu'il était homosexuel.
Okay.
Il s'est suicidé, s'est noyé, et les meurtres ont arrêté en même temps.
Ah,
alors là, il est devenu un suspect. Évidemment, ça n'a jamais été le cas. On a beaucoup d'immigrants juifs.
OK.
Il y avait énormément de racisme et de xénophobie. Mm-hmm. Alors, les Russes, les Juifs, tous ceux qui avaient immigré étaient rapidement des suspects.
Des suspects, oui.
Absolument.
Les
Donc,
bouchers.
Les bouchers également. Donc là, on a Aaron Kaminsky, qui est un Juif polonais. Qui était également boucher.
Ah ouais.
Cordonnier.
Ah ouais.
Le problème, c'est qu'on disait qu'on pensait que c'était un boucher parce que le tueur avait supposément un tablier en cuir. Et le surnom de ce cordonnier-là était Tablier de cuir.
OK.
Puis en plus, c'était un Polonais immigrant et un Juif. Alors là, c'était comme « Oh, que ça me tente que ça soit lui!
Oh »
Il y en a eu tout plein comme ça durant l'enquête. Finalement, il n'y a jamais rien qui a abouti. Il n'y a jamais d'accusations formelles qui ont été déposées. Il y a eu beaucoup, beaucoup de suggestions de la presse. À l'époque, je les passe, eux, parce que c'est complètement farfelu. Puis c'était « Mon voisin, je le trosse pas, ça va être lui. » Il y en a. Moderne, il y en a un, entre autres, si jamais vous voulez lire là-dessus, il y a un livre au complet qui a été écrit par une grande auteure, en fait, qui fait des romans policiers.
Okay, oui.
Et elle a été financée pour faire une recherche sur un suspect en particulier. Il s'agit de Walter Sickert. L'auteur, c'est Patricia Cornwell.
OK, oui.
Qui est une auteure bien connue des romans policiers. Elle a un livre au complet et c'est passionnant à lire.
Ah oui, OK.
Mais c'est pas lui. Elle est convaincue, il y a quelques années, elle a ressorti dans les médias en disant « J'ai des nouvelles preuves, j'ai des preuves médico-légales, que j'ai raison. » Et ça n'a pas abouti encore. Donc peut-être que, mais pour l'instant, on dit « Non, 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 c'est pas lui. » Mais lui, c'était un peintre et il peignait les scènes de crime de Jack l'Éventreur et il les faisait de manière très détaillée. Ça l'a donc, elle n'est pas la seule à le suspecter, mais ça en est un autre suspect farfelu pour terminer.
Oui, pour terminer.
Lewis Carroll. Louis qui est l'auteur de « Alice au Pays des Merveilles ».
Ah ouais.
Et là, ça, c'est puis là, on s'en va dans le farfelu. Là. Ceux qui portent des chapeaux en papier d'aluminium, là, ils disent que ces œuvres sont remplies d'anagrammes et de codes. Que là, si on replace les lettres, ça dit qu'il y a comme il dit lui-même qu'il a tué, que c'est un malade. Et, alors, il y a des gens qui ont passé une longue période de temps à prendre les textes de Lewis Carroll et de réorganiser les lettres dans chaque
phrase.
Un peu
comme phrase. Les acronymes, un peu.
Exactement. Les acronymes, les anagrammes, tout ça.
Tout ça on caché a essayé. Dans le film, dans l'histoire.
Absolument. Alors, on dit qu'il avait recours à des anagrammes pour on a eu recours à des anagrammes pour découvrir dans certains textes de Lewis Carroll des phrases pouvant ressembler à des évocations des meurtres de Whitechapel. Évidemment, personne ne prend ça au sérieux. Mais il y a quand même des gens qui ont passé du temps là-dessus. Il y a encore des gens qui croient que Lewis Carroll, l'auteur de Sherlock Holmes, qui a écrit ses histoires de Sherlock Holmes dans les années 1880, ben là, s'il est capable d'écrire des histoires complexes de même de meurtre, ça peut être qu'il est capable de les faire puis pas se faire prendre.
Oh là là.
Alors, il y en a eu des suspects, Tristan. On pourrait faire une émission spéciale là, juste en nommer les suspects puis on serait capable de remplir une demi-heure.
C'est ça, j'ai vu juste la quantité de feuilles que tu avais.
Il y en a. C'est incroyable. Ça finit jamais, jamais. On n'a jamais su, on ne saura probablement jamais. Les médecins personnels de la reine Victoria à l'époque qui a été suspecté parce que c'est un médecin, complot avec les Rose-Croix, avec les sociétés secrètes de l'époque. Écoute,
tout ça
est
en lien aussi, en lien avec bien des dossiers qu'on a couverts. Caroline, le temps file, c'est notre plus long aujourd'hui, 11e épisode. Tu disais qu'on avait beaucoup de choses à dire sur Jack l'Éventreur. On a réussi.
On pourrait continuer pendant 3 mois.
Dossier clos, dossier couvert, en fait, pas clos, mais... L'essentiel, on a
piqué votre curiosité, l'objectif est atteint, puis maintenant, allez vous documenter. C'est pas dur. Jack l'Éventreur, sur Internet, vous allez trouver des milliers de documents. Vous allez pouvoir lâcher votre job et étudier ça le reste de votre vie.
Mais merci beaucoup, Jason, parce que même moi aussi, j'étais curieux de savoir tout ce qui s'était passé derrière cette histoire. Et là, on a l'histoire, l'époque, tous les détails, puis vraiment, là, en 40 minutes, bang! On a les dossiers essentiels.
Absolument. Donc, l'objectif n'était pas de résoudre l'affaire de Jack l'Éventreur, simplement de donner les bases pour les gens qui aimeraient peut-être maintenant aller se documenter par eux-mêmes. Vous êtes autonome, on vous fait confiance.
Jason Lévesque, merci beaucoup de nous avoir apporté toutes ces informations pertinentes sur Jack l'Éventreur.
Hey, ce fut plaisant. Merci, Tristan.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Eh oui, comme d'habitude.
Salut.
L'émission Dossier Bizarre était une présentation de...
L'émission Prends ce cool avec Éric Fallu tous les samedis de 14h à 16h sur les ondes de CILE.